Oui, bonjour. Je me pose la question, vous nous dites, votre approche des choses, c'est de dire que l'aide individualisée en dehors du temps de classe donc n'est pas adaptée au problème. Donc en fait, il faudrait concevoir une aide individualisée dans la classe. Mais comment ?
Il n'y a pas, enfin, je veux dire, toutes les aides individualisées ne sont pas forcément inefficaces, mais en même temps, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas forcément mutualisation de tout ça.
Donc en fait, c'est pas le fait qu'elle soit hors de la classe, c'est le fait qu'elle soit,
non, mais
qu'il n'y ait pas mutualisation.
Il faut être prudent, c'est-à-dire que il faut pas se dédouaner en disant, quand on est un peu, mais c'est logique aussi, je veux dire, la difficulté de certaines classes fait que, bon, on ne sait plus trop par quel bout prendre les choses. Donc on se dit, pour un élève où on est un peu, on ne sait pas comment le faire. On va essayer de dire, bah, finalement, peut-être que là-dessus, quelqu'un d'autre pourra intervenir auprès de lui. Sauf que quand ça devient massif dans un groupe classe, parce que chacun des élèves a vraiment un certain nombre de problèmes, ça suffira pas. Et en même temps, le temps de prise en charge à l'extérieur, s'il n'est pas coordonné avec le temps d'enseignement qui est fait, mais sur quoi est-ce qu'on travaille aussi en aide individualisée? C'est pour ça que dans le premier degré, c'est plus facile, parce que l'enseignant qui, il suit ses élèves, et puis on l'a vu au Géranium, sur le temps de midi, par exemple, il prenait trois de ses élèves, donc il savait, soit il les faisait travailler sur quelque chose qui avait déjà été vu, soit il anticipait sur un point qui allait être travaillé ultérieurement et donc sur lequel les élèves allaient avoir un peu d'avance par rapport aux autres. Donc en fait, il y a des stratégies. Donc je ne remets pas en cause l'ensemble mais si vous voulez, c'est aussi la question de l'articulation, le fait que finalement on n'ait pas de traces, on n'ait pas de mémoire et qu'on finit par, même au bout d'un moment, pour ces élèves qui quand même depuis tout le premier degré, ils ont eu des formes d'étayage divers, hein. D'ailleurs, soit parfois ça peut être en plus le CMP, ça peut être l'orthophoniste, c'est énorme. Donc, on avait Yvan, par exemple, il nous racontait ça, mais d'une manière, c'était très clair dans sa tête. Hein. Il avait un emploi du temps très bien organisé, il savait où il devait, qui s'occupait de lui. Mais en même temps, au niveau de l'efficacité, c'est quand même un peu sujet à caution, puisque ces élèves-là, étayés depuis le CP, on les a repérés comme étant fragiles à risque de décrochage en CM2. Et les enseignants, de leur côté, confortaient nos impressions. C'est-à-dire qu'à travers des documents comme à la fois les livrets de compétences, les bulletins, etc., finalement, on avait des concordances, des repérages, alors que ces élèves-là sont étayés. Donc, quelque part, c'est que l'étayage n'est pas suffisamment efficace.
Est-ce que c'est l'étayage qui n'est pas suffisamment efficace, ou est-ce que c'est le nombre d'élèves dans la classe qui est trop nombreuse? Est-ce que la SECPA n'est pas la meilleure solution pour ce genre d'élèves? Je parle en connaissance de cause, parce que d'une expérience très simple vécue. J'ai mon fils qui était repéré donc en difficulté à l'époque en CM2. Donc il est allé jusqu'en 5e et on m'a dit, ouais, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Vous le laissez continuer. Il avait quand même des qualités qui ne justifiaient pas la SECPA. J'ai insisté pour la SECPA et j'ai travaillé avec les équipes pour lui du professeur Ruffo. Et ça a été très efficace parce que la SECPA était justement une section qui était, comme vous disiez tout à l'heure, plus cadrée, donc avec plus rassurante et qui aide les difficultés d'attention avec des personnes qui ont un retard cognitif. C'est de ça dont je parle. Donc cet étayage pour ces enfants qui ont été repérés très très tôt, est-ce que c'est le cadre de la classe ou est-ce que c'est l'étayage qui est défectué parce qu'il est en dehors?
Il n'y a pas forcément une seule réponse non plus, mais j'insiste vraiment pour quelque part mettre en valeur la SECPA et le fonctionnement de la SECPA, c'est-à-dire que dans les représentations collectives et chez les familles aussi, puisqu'on sait bien que même les élèves en grande difficulté en CM2, une partie refuse l'orientation en SECPA sous prétexte que c'est stigmatisant, etc. Parce que je crois qu'on méconnaît le fonctionnement et les pratiques des collègues de SECPA et que je pense que c'est dommageable parce que, évidemment, j'ai pas travaillé sur 15 SECPA pour pouvoir voir si les effets en termes de prévention du décrochage sont aussi évidents ailleurs, mais c'est quand même une hypothèse que je formule, c'est-à-dire que les modalités de fonctionnement SECPA limite le décrochage. Mais c'est quelque chose que peut-être je retravaillerai à l'occasion parce que je crois qu'on a beaucoup à apprendre du fonctionnement et des collègues de SECPA. Là aussi, il y a des conditions, c'est-à-dire que hier, j'ai dit en présentant le quartier que, et le collège que dans ce, le choix avait été fait d'intégrer au maximum la SECPA. C'est-à-dire qu'il y a des temps où il y a par exemple un module une heure par semaine de français avec des groupes de besoins. Mais on va en reparler parce qu'il y a un atelier cet après-midi avec Mathieu sur justement un travail en SECPA.
Mathieu va quand même dire deux mots.
Je fais de la pub, c'est l'atelier, un atelier philosophique en guise de leçon d'histoire, une spécificité de la SECPA.
Oui, Cyril de Sauce, donc coordonnateur de l'atelier Relais de Vichy. Quand vous évoquez la question des bulletins par rapport donc au travail que vous avez fait, vous parliez, moi je trouvais avec beaucoup de bienveillance, sur cette maladresse des enseignants. Je serais particulièrement plus virulent parce que je trouve qu'on ne peut pas excuser cette maladresse, mais on peut l'expliquer parce qu'il s'agit quand même d'un impensé fondamental aussi de la formation, les écrits. Ce que l'on met dans les écrits, pourquoi on fait des écrits, force est de constater que jusqu'à présent, on n'en a pas beaucoup. Et votre collègue hier disait que ce qui fait un outil, ce n'est pas l'objet, c'est l'usage qu'on en fait. Et dans le cadre de l'atelier relais, lorsque un élève est proposé à une admission, l'instruction du dossier comprend aussi le retour sur le parcours. Et ce qui est systématique sur tous les élèves que j'ai pu voir depuis 2008, au sein d'un même établissement, donc pas de rupture de lieu, on prend les bulletins année après année, mettons pour un élève de 3e, donc signalé en décrochage scolaire, et on a une constante répétition des mêmes remarques, des mêmes conseils ou injonctions, et on n'en fait jamais rien. Donc c'est vrai que ça aussi, ça interroge largement sur un impensé de ce qu'on fait des écrits. Et concernant les écrits et la continuité de la prise en charge, donc là je vais parler plus en tant qu'animateur de la commission collégiale en difficulté du bassin de Vichy, on a quand même à l'heure actuelle aussi une injonction institutionnelle qui fait que du primaire au secondaire, le seul document qui passe, c'est le fameux livret personnel de compétences et les PPRE de passage. On n'a plus rien qui permet de maintenir le lien du tricot de l'histoire d'un élève. Donc forcément, pour travailler, on repart systématiquement à zéro tout le temps. Alors que quand on fait un retour en arrière, ne serait-ce que sur les bulletins de collège, on les voit, les signes. Et on les voit largement. Moi, quand je vois qu'un gamin qui arrive en 3e, dès la 5e, on aurait dû, effectivement, s'il y avait un vrai suivi de cet outil, en faire quelque chose et maintenant agir. Et juste une deuxième remarque par rapport à la question de la circulation. Parce que dans la totalité des collèges dont je connais le fonctionnement, c'est un point d'interrogation majeur. Qui se déplace ? Élève, prof. Sauf que c'est un point qui reste toujours insoluble pour le simple fait que si le prof... Les élèves ne se déplacent pas, c'est le prof qui se déplace. Reste toujours le problème de sécurité, de quand le prof part de sa classe. Parce que si il peut pas partir sans que son collègue soit venu prendre le relais, mais entre-temps, qui prend le relais des élèves du collègue ? Donc il y a des établissements qui ont testé, et ça devient un effet en cascade de retard complètement insoluble, parce qu'au final, on se retrouve toujours avec des élèves qui sont dans un battement, et des collègues qui attendent l'autre collègue, qui pensent que l'autre va arriver alors qu'il l'attend. Donc c'est intéressant votre constat au niveau de ce que ça peut générer en termes de vie scolaire, en termes de difficultés et de diminution du temps d'apprentissage. Sauf qu'une fois qu'on a fait ce constat-là, on part sur quelle piste ?
En fait, il y a plusieurs paramètres, parce qu'il y a aussi le paramètre de l'architectural. Enfin, je veux dire, la façon dont les établissements sont construits, imaginés, on pourrait aussi... c'est plus facile de gérer ces choses-là dans un petit établissement, plus ramassé, etc. Là, c'est vrai que Schœlcher, c'est quand même... parce que je vous dis, même pour un adulte... Enfin, moi, j'étais avec... on passait d'une salle à l'autre pour suivre les élèves, pour peu qu'on discutait 2 minutes avec le collègue en sortant. On arrivait en retard au cours suivant, d'ailleurs, comme certains élèves. Enfin, je veux dire, bon, c'est infernal, quoi. Moi, au bout de la matinée, j'en avais Bon, et je me disais, mais enfin, comment c'est possible, quoi? Donc, toute la journée, et s'en plaignent aussi, mais vraiment des bons élèves. C'est-à-dire que pour eux, c'est une perte de temps, d'énergie. Puis, en fait, ils sont pas sécurisés parce qu'il y a aussi, on croise des plus grands qu'eux, qui vont les bousculer dans les escaliers. Enfin, je veux dire, il y a aussi cet aspect-là, parce que vous parliez sécurité si on les laisse tout seuls deux minutes dans leur classe. Mais quand ils sont dans les escaliers à chahuter, il y a aussi un problème de sécurité. Oui, mais non, mais je sais bien. J'ai pas dit que c'était simple, mais je dis simplement qu'on n'imagine pas à quel point ces détails matériels et organisationnels peuvent. Pour les élèves, c'est un souci. C'est la première chose dont ils parlent spontanément. Eh ben, il faut essayer de voir dans chacun des établissements. Est-ce qu'on est obligé de changer de cours et de changer de prof toutes les heures? Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, avoir des temps plus longs de 2 heures ou de 3 heures, voire, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui oblige. C'est un problème organe de choix, je veux dire, pédagogique. Hein. Est-ce qu'on est obligé de passer d'une heure de maths à une heure d'anglais à une heure d'histoire systématiquement? Si on a 2 heures dans la semaine, pourquoi on les regroupe pas? Ça évite déjà de sortir. Enfin, oui, mais 2 heures, c'est déjà mieux qu'une, si vous voulez faire. Ça veut dire qu'il y a au moins une. Enfin, je dis, il me semble que c'est pas. On pourrait au moins limiter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 le matin et 3 l'après-midi au maximum, c'est-à-dire que 7 temps de circulation et de changement de salle, on pourrait peut-être arriver à limiter à 3 ou 4 dans une journée. Je veux dire, ça me semble honnêtement, ça me semble être un choix interne à l'établissement. Comme de la même manière, j'ai pas insisté, mais en fait, quand même, c'est quand même incroyable qu'en éclair, la chose qui manque le plus, c'est le temps commun de travail, c'est-à-dire des temps institutionnels de travail en équipe. Enfin, c'est quand même, à mon avis, c'est une des choses qui permettrait vraiment d'avancer. Des temps où on puisse se parler tous ensemble. À géométrie variable, c'est pas obligé d'être 40 ensemble, en plénière, tout le temps. Mais c'est-à-dire des temps vraiment bien repérables sur l'emploi du temps, où tout le monde, on sait que tout le monde est là obligatoirement, et ça fait partie de l'emploi du temps. C'est un choix. Et là, c'est un choix politique. C'est-à-dire que, on a choisi de donner des indemnités. Bon, ok, mais les indemnités, ça aide pas à travailler en équipe. Hein. Bon, ça fait quand même 30 ans qu'on est là, depuis 91 qu'on est là-dessus, donc 20 et quelques années. Là, on va avoir une refondation, on reparle de l'éclair l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Si on n'avance pas là-dessus, il faudra pas attendre que les choses bougent toutes seules. On sait très bien que quand on est dans des quartiers comme ça, si on n'a pas de temps pour se concerter, si on n'a pas de temps pour se poser, pour discuter ensemble, pour mettre les choses au point, pour faire tomber la tension, puis il y a des moments où les collègues... Ils ont aussi besoin de se poser. Mais on ne peut pas demander aux gens de faire tout sur leur temps le soir et le midi. Ils ont pas, enfin, je veux dire, c'est pas sérieux.
Mais il me semble qu'on est en train de soulever des problèmes qui sont vraiment importants, effectivement, et qui tiennent à cœur et qui sont des problèmes de fond. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne va pas les solutionner aujourd'hui parce qu'en plus, ils sont contextuels. Voilà. Donc, on les a soulevés, ils ont émergé. On sent bien qu'ils tiennent à cœur parce que dans la salle, on sent monter la pression. Mais on va prendre aussi d'autres questions, mais ça nous donne des pistes de réflexion et des pistes pour avancer
c'était
et localement et tous ensemble.
Mon boulot, c'était de par rapport à ce que j'ai observé, de vous renvoyer des questions. Moi, j'ai pas de solution. C'est pas moi qui suis. Quand j'étais enseignante en poste, je réfléchissais à tout ça et j'essayais de. Bon, maintenant, de ma posture, je vous renvoie des choses que j'ai observées et qui me semblent pouvoir poser problème pour qu'effectivement l'accrochage des élèves, en particulier des plus fragiles, voilà, c'est simplement, et qu'en fait, c'est pas. Et là, vous voyez bien, quand je dis en introduction, qu'on n'est pas du tout sur l'élève en tant que tel, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des choix d'organisation qui ne sont pas sans impact hein, sur le fonctionnement des classes et la façon dont les élèves le vivent, leur scolarité au collège. Mais je ne peux pas répondre à toutes vos questions, parce que ça déborde largement. Une dernière question, puis après, je crois qu'on va aller en atelier, non, Sylvie ?
Non, c'était deux juste pour je sais pas, mettre un peu de la... Donc, la SECPA, la solution à vous, pour vous. on est quand même assez chouchoutés, et en même temps, on se pose aussi des questions. Mais ce qui est évident par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir des petits groupes et la possibilité, effectivement, d'avoir 2 heures de concertation par semaine. C'est en ce moment au Collège Schœlcher, c'est vraiment une question qu'on se pose entre l'ensemble des dispositifs d'aide, de soutien. Parfois, on se pose la question finalement aussi de leur efficacité et de l'énergie en laisser un peu en pure perte. Et dans l'équipe enseignante, en tout cas, ce qui revient souvent, c'est est-ce qu'on continue dans cette voie-là ? Enfin, souvent, j'en sais rien, mais en tout cas, on l'a évoqué cette année au moment de réécrire le projet d'établissement. Est-ce qu'on continue dans cette voie-là ? Ou est-ce qu'on utilise tous les moyens humains et horaires pour juste faire des petits groupes de classe et faire un enseignement, j'allais dire, classique ? Voilà. C'est vraiment quelque chose qui a été mis sur la table pendant le projet d'établissement. C'est-à-dire, on n'invente pas des choses incroyables, mais on a des classes à 15 et voilà. C'est quelque chose qui a été proposé parce qu'on ne sait pas toujours si finalement ce qu'on fait c'est très efficace. Et l'idée de se dire à un moment donné, essayons, on verra bien. Hein, si on se plante, de toute façon, il faut bien tenter quelque chose, quoi. Voilà. Et après, par rapport au décrochage des élèves en SECPA, c'est vrai qu'on les materne certainement plus parce qu'on les a moins et on les voit plus souvent. Étant donné qu'on est PE et qu'on les a souvent dans... Enfin, ils ont quand même, par rapport aux autres élèves de l'établissement, 3 ou 4 enseignants de moins. Donc, de fait, moi, mes élèves de 6e, je les vois 10 heures dans la semaine, c'est-à-dire à peu près un petit peu moins de la moitié de leur emploi du temps. Mais par rapport à l'orientation des élèves en SECPA, on en a quand même certains qui ne se sentent pas à leur place. Voilà. Et ceux-là, ils sont susceptibles d'être en décrochage parce qu'ils vont se sentir... on va voir qu'ils percutent quand même plus vite. Ils ont une compréhension plus fine, une capacité de travail un peu plus importante. Et assez rapidement, ils se mettent de côté d'eux-mêmes parce qu'il y a l'idée de ne pas être à sa place. Quoi. Voilà. Il y a des élèves qui sont vraiment à la frontière... Et cela,
c'est toujours la question du seuil, hein, c'est compliqué aussi.
Juste pour terminer sur la SECPA quand même, il y a la question quand même de l'orientation en fin de SECPA qui se pose et de la fermeture en termes d'orientation qui est souvent problématique.
Oui, merci, bonjour. Je voulais simplement revenir sur le problème de la circulation des élèves dans les établissements et apporter peut-être un éclairage parce que bon, je suis entre autres prof d'allemand. Et il m'arrive d'aller en Allemagne, et bon, je ne veux pas citer l'Allemagne comme modèle, on le fait beaucoup en ce moment, mais là-bas, c'est vrai que les élèves restent dans leur classe. C'est les professeurs qui bougent. Et je veux dire, on n'a pas le bazar dans les classes, ils ne mettent pas le feu aux ordinateurs. Et je pense qu'il y a une explication qui me vient à l'esprit, c'est que, bon, c'est vrai que nous, on leur propose aux élèves, on leur fait ingurgiter des maths, du français, de l'allemand. On s'interroge pas toujours comment ils digèrent tout ça, mais en tout cas en Allemagne ils sont éduqués assez tôt à l'autonomie, ce qu'on ne fait pas nous. Et je pense que si on a des élèves qui ont été habitués à être autonomes dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire à être respectueux et savoir se débrouiller eux-mêmes, on peut éviter ce genre de débordement que nous craignons à juste titre. Moi aussi, hein, j'aimerais pas laisser mes classes. Voilà. Mais voilà, c'était simplement un petit témoignage.
C'est vrai que cette question du surétayage qui créerait finalement plus de dépendance que d'autonomie, surtout si le désétayage n'est pas pensé en amont, c'est aussi une vraie question chez nous.